LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Le train TER numéro 870 052, en provenance de Toulouse-Matabiau et à destination de Carmaux, départ 13h, va entrer en gare voie 2. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.
Gentrification. Quand les espaces populaires sont bourgeoises. Une série documentaire de Clément Salzard, réalisée par Gilles Blanchard. Quatrième épisode, Tarn, l'exode urbain sous tension.
Destination. 1950, Toulouse, c'est 250 000 habitants. Et autour, c'est rien. Autour, c'est rien. 1980, en fait. Toulouse, c'est 300 000 habitants. C'est une agglomération d'à peu près 400 000 habitants. Donc 5 000 habitants. Et autour, c'est rien. Aujourd'hui, la ville, c'est 550 000 habitants, à peu près ou pas loin. C'est une agglomération de 1 300 000 habitants. C'est une aire urbaine de 1 7 000. Et c'est un système urbain de 1 2 000. Donc 1950, 250 000 habitants, aujourd'hui 2 2 millions. Si on avait dû mettre ces 2 2 000 habitants dans la ville même de Toulouse, elle n'aurait pas cette gueule. Et c'est clair que dans les années 50-60, quand c'est pas Airbus, c'est Air Inter à l'époque, est délocalisé à Toulouse, bon, mais une grande partie de ces cadres d'Air Inter, quand ils arrivent à Toulouse et qu'on leur dit bah, « un quart d'heure, tu peux avoir une maison dans le Gers bah, », du coup, bah, je prends ma belle maison avec ma piscine dans le Gers.
Lionel Rouget, géographe.
Alors après, il y a des logiques parfois de relocalisation, de réarticulation qui s'organisent. On l'a vu, hein, comment la crise sanitaire, l'arrivée du télétravail bouscule aussi les équilibres résidentiels et accorde une certaine valeur à ces localisations. Un peu d'entre deux.
La ville à la campagne.
Voilà, c'est le rêve déjà depuis longtemps en fait. Et il est clair que les politiques publiques en France, en tout cas, l'ont permis depuis la fin du 19e siècle, mais surtout depuis les années 70. Mais on voit bien aussi comment ça se recompose et que ça se recompose pour des groupes sociaux qui ont les moyens. Quid des autres pour qui l'accession à la propriété en lotissement était une possibilité? Est-ce qu'ils sont coincés dans le parc social? Est-ce qu'ils sont coincés dans le parc ancien non rénové? Et donc on voit bien que la question des passoires thermiques va devenir un vrai enjeu social. Enfin, il y a une vraie crise là en termes de production, mais aussi en termes de rénovation, qui interroge tant en ville qu'à la campagne, que dans ces petites villes ou dans ces bourgs pris dans la dynamique métropolitaine. Comment là, en fait, on vient agir aussi pour éviter des crises, oui, des crises d'habitabilité et des crises sociales de demain.
Mesdames, Messieurs, notre train arrive en gare de Saint-Sulpice à la voie B. La descente se fera donc du côté gauche dans le sens de la marche. Merci de bien emporter toutes vos affaires personnelles et tous vos bagages si vous descendez dans cette gare.
Je suis née à Saint-Sulpice.
Donc vous connaissez bien.
C'était le tout petit village où il ne passait pas grand-chose.
Là, nous sommes à l'amicale des aînés de Saint-Sulpice-la-Pointe.
On relevait les ordures avec le cheval. Il y avait le garde champêtre qui tambourinait avec son tambour et puis qui donnait les infos à tout le monde. Puis bon,
comment ça se fait que ça a grandi alors?
La proximité de Toulouse, la 68 et tout ça.
Et le train, ça a dû changer beaucoup de choses aussi.
Ben, je crois qu'il y a un millier de personnes qui partent travailler à Toulouse tous les jours. Hein. Oui, oui. À une époque, on était 2800 et maintenant, on est près de 10 000.
Je suis arrivée là par l'attraction de Toulouse.
Vous étiez où avant?
Alors, mon origine, c'est le nord-est de la France. Je suis venue dans le Tarn il y a très longtemps. Et mon mari, on travaillait dans l'industrie aéronautique.
Donc vous étiez venue pour travailler ici, c'est ça?
Alors, fin de carrière, j'ai donné à manger aux enfants dans les écoles de Saint-Sulpice, cantinière. Voilà.
Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à Toulouse, mais qui vivent là?
Oui, on est un petit peu, entre guillemets, quand même une ville dortoir. Il manque un magasin de chaussures, il manque une vraie boutique de vêtements. Vous n'avez pas de resto d'ouvert. Vous allez sur la place, il n'y a personne. Mais Rosie, tu peux nous parler, nous, à nous, des ateliers de couture.
Il y avait les deux usines de chaises, je ne me souviens Malhomme, plus du nom.
Malhomme et Rigaud. Il y avait Rigaud, j'y ai travaillé, moi, chez Rigaud.
Ils n'étaient pas nombreux à Saint-Sulpice, mais les femmes, tout le monde avait du travail, étaient employées à différentes entreprises. Donc l'arçonnerie, les chaises, les brosses, les porte-manteaux. Après, il y a eu les pantalons.
Et donc ces usines, elles ont fermé à un moment, alors?
Oui.
Et donc ça, c'était quand?
Vogue de France, où je travaillais, en 82. Nous, on avait Audax comme marque et on faisait d'autres pantalons en sous-traitance. Et on nous a enlevé ces pantalons. Et ça a fermé et là, ça a été très triste. Très, très triste. Depuis, je n'ai plus retrouvé de travail. J'étais couturière au départ. Et j'ai fait des robes de mariée, voilà. Les autres, je les plaignais parce que beaucoup de jeunes faisaient bâtir et elles n'ont pas pu continuer leur maison. Rien que d'en parler, j'ai une petite angoisse.
L'usine de Rosie a fermé en 1982. Le pays se désindustrialise alors depuis une petite décennie. En 50 ans, l'industrie française a perdu environ 2,5 millions d'emplois.
Bon, ben déjà, moi, je suis née en 1944, donc vous pouvez calculer. C'est un compte rond que je viens de prendre au mois de juillet. Je suis arrivée en même temps que le débarquement.
Monique.
Je suis issue d'une famille d'agriculteurs, parents, grands-parents, enfin bon, vraiment, je viens du monde rural, dans le Tarn, oui. Et donc, j'étais après en pension jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis, comme j'ai eu des problèmes, j'ai arrêté donc mes études et j'ai travaillé à la ferme avec mes parents. Mes parents, ils faisaient du lait avec les vaches laitières, bien sûr. On a fait de la vente à domicile. On portait les bouteilles de lait qu'on distribuait dans la ville de Saint-Sulpice-la-Pointe dans les années 59-60, à peu près, on a commencé. Voilà, donc j'ai un peu connu tous les métiers. Avant de me marier, je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Alors, Saint-Sulpice était encore une ville rurale. Il y avait, à l'époque, même pas 2000 habitants. Où il y avait quand même toutes ces industries. Donc les personnes arrivaient à vivre correctement, parce que les femmes surtout donc, avaient un deuxième salaire. Bon voilà, c'était un village charmant. Il est encore, hein, d'une autre façon. Non, c'est plus un village. Et alors je ne me rappelle plus en quelle année s'est fait la voie rapide. Et il y a eu l'autoroute quand même qui est vraiment à, juste à 2 kilomètres à la sortie du village. Donc ça aussi, ça fait venir beaucoup de monde de Toulouse, d'Albi ou d'ailleurs, parce qu'ils trouvaient très intéressant, s'ils ne pouvaient pas prendre le train quand même avec la voie rapide, tu étais tout de suite à Toulouse ou à Albi. Parce que surtout, c'était moins cher qu'à Toulouse. Voilà, c'était pour une question de trouver un peu la vie à la campagne et tout en étant quand même dans des prix très raisonnables. Ce qui change un petit peu parce que finalement, nous à Saint-Sulpice maintenant, nous n'avons pas les tarifs de la grande ville, mais enfin, on n'en est pas loin, je pense.
Évidemment, Saint-Sulpice, comme d'autres communes autour, était... Bon, l'agriculture était quand même importante.
Oui, bien sûr, c'était vraiment, comme dans beaucoup d'endroits, c'était surtout le rural, l'agriculture. Enfin, mais maintenant, l'agriculture, elle a vraiment diminué parce que tous ceux qui peuvent, ils ont vendu justement leur terrain pour construire. Et de 3 ou 4 fermes, on ne fait qu'une ferme. Mais voilà, et c'est ce monde rural qui disparaît comme un petit peu partout. Hein, surtout quand on est près de grandes villes. Les paysages sont tout à fait différents par rapport à même il y a 20 ans.
C'est urbanisé.
Ah oui, très urbanisé, oui.
Il y a une première dynamique qui se formalise avec la mise en place de la ligne de chemin de fer, dans les années 80 en particulier, où on a pas mal de cheminots, en fait, qui vont avoir tendance, en lien aussi avec des aides à l'accession à la propriété, des aides de la SNCF, à aller accéder à la propriété le long de cette voie de chemin de fer. dans un contexte où ça va assez vite se saturer du côté de Castelmauroux. Ça va se déporter vers Montastruc-les-Conseillère, puis ensuite vers Saint-Sulpice-la-Pointe, dit aujourd'hui Saint-Sulpice-sur-Tarn. Puis ensuite, effectivement, petit à petit, les autres communes, L'Isle-sur-Tarn et Rabastens.
Là, on est dans les années 80.
80, ouais.
Après,
il y a une deuxième phase en fait qui va se déployer plutôt années 90-2000, qui est aussi liée au moment de la forte, d'une deuxième grande forte croissance toulousaine. C'est la 381, c'est l'arrivée effectivement d'Airbus, et du coup c'est une croissance démographique importante. Et on va avoir une deuxième vague qui va toucher Saint-Sulpice-la-Pointe avec d'autres lotissements, mais petit à petit aussi les communes limitrophes. Et puis une forme aussi de ménage plus de classe moyenne supérieure, qui vont aussi, du fait de l'amélioration de la ligne ferroviaire, mais surtout de l'arrivée de l'autoroute en direction d'Albi, en fait, qui vont quelque part là faire le saut vers une installation périurbaine, plutôt dans les bourgs et dans les petites villes, entre Bessières, Saint-Sulpice, Rabastens, L'Isle-sur-Tarn, jusqu'à Gaillac. Et puis petit à petit, pour certains aussi, plutôt dans des communes rurales alentour.
Prochain arrêt, Rabastens, Coufouleux.
Rabastens, quand même, il y a beaucoup de difficultés pour se loger. C'est pas la joie. Je pense pas que ce soit la joie pour trouver du logement. Hein.
Café des sports, Rabastens.
Il y a 10-15 ans, c'était un peu plus facile pour lui à se loger, oui. Mais maintenant, tout se vend, tout se rachète, ça change de main en main, et puis les prix à la location, c'est pas possible. Il y a à moins de 700, 700, 800 euros. Il y a des petits jeunes qui logent dans des petits fourgons de rien du tout, là. C'est une honte. C'est pas normal, malgré les logements sociaux qu'il y a, je comprends pas. Je comprends pas, d'ailleurs, les logements sociaux. Moi, je pensais que c'était les logements sociaux à prix réduit, puis je vois qu'il y en a qui disent que ils payent aussi cher que moi.
Et oui, parce qu'il y a des logements sociaux chers, en fait, aussi, maintenant. Vous êtes locataire ?
Moi, locataire, hein. Locataire, 41 mètres carrés, 510 euros. Tout pareil. À un moment donné, il était question que Toulouse devait se rapprocher petit à petit de Rabastens et compagnie.
Avec l'autoroute, Toulouse s'est rapproché, oui.
L'autoroute, oui, c'est Toulouse s'est rapproché, on y est vite. Eh ouais. Moi, je travaillais à la centrale à Albi, à la centrale EDF. Hein.
Ah, donc elle a fermé ?
Elle a fermé, ouais. C'était souvent mon métier.
Mais toi non plus, Didier, t'as pas de problème pour te loger, toi.
Pardon ?
T'as pas de problème, toi, pour te loger, Didier ?
Pour le moment, non. Mais mon propriétaire compte peut-être vendre l'année prochaine.
T'as qu'à acheter ?
Il me dit, je sais pas si j'ai pas tout vendre. Il me dit, laisse ce que j'ai.
Achète ?
Achète ?
Oui.
On est capable de louer des trucs inadmissibles ici. Hein. J'ai vu des trucs pas possibles. Et comme il y a de la demande, ben ils arrivent à louer quand même. Hein. Des trucs insalubres, il y a des trucs insalubres à Brassens qui ont été loués. Ouais. Il n'y a pas de limite, ouais. Il n'y a pas de limite. Là.
Tu vas du côté de chez Drabla, chez Caler, là. Tu vas voir les mecs qui logent dans des petites fourgonnettes de rien du tout, qui mangent et qui dorment à la gagne. C'est pas normal.
Non, non. À l'américaine. Les Américains connaissent bien ça.
C'est pas bon signe quand on...
Non, c'est pas bon signe quand on commence à prendre exemple là-dessus. Oui. Je sais pas, ici, il y a un nid d'artistes. Il y a beaucoup de musiciens, quel que soit le spectacle. Il y a musiciens, théâtreux, marionnettistes, plein d'artistes, peintres. Il y a plein d'artistes ici qui sont venus ici. Moi, je suis arrivé ici en 97. Oh, je crois que ça a commencé déjà, oui, ça a commencé déjà...
Et vous vivez de quoi ?
Moi, je suis retraité. J'étais éduqué avant. Sinon, moi, je pense qu'on est au poumon ici. Là, c'est le poumon de Rabastens, ce bar-là. Si on regarde bien, moi, ça me fait penser à ces théâtres grecs. Là, on est dans les gradins et la scène, elle est là. Tout Rabastens, c'est les allées. Les gens, ils se croisent toute la journée. Si on regarde les magasins, le peu de magasins, c'est les allées. Ça me fait penser à ça, ce théâtre. Et ce bar, c'est vraiment le... Moi, je pense qu'il a intérêt à vivre longtemps, ce bar. Il a été fermé longtemps et Rabastens, sais pas, c'est par sa situation, par... il est vraiment au centre, il est vraiment...
au cœur.
Au cœur, et... Et puis... Amis de luxe, ah, pardon, des petits castards et Pollux, excusez-moi. Des gens de Sodome. Oui. C'est bon.
C'est vrai qu'on voit beaucoup de, on voit des, pas mal de Toulousains qui viennent sur Rabastens. Ouais. Sur Rabastens, alors je pense que c'est le, l'atmosphère qui attire un peu ces gens et ces personnes. Mais voilà, ouais, on voit pas mal de Toulousains. Ouais.
Et c'est quoi alors cette atmosphère de Rabastens?
L'atmosphère de Rabastens, c'est un peu le, voilà, ça, c'est vivant, ça bouge, c'est l'esprit culturel, l'esprit un peu babacool aussi, que les gens recherchent, et voilà. Et puis après, y a pas mal de choses qui sont faites aussi en ce sens, hein. La plage, le Tarn, les bars, l'activité, le marché de Rabastens, il est bien. Moi, j'habite Bessières, je viens à Rabastens.
Dans une agence immobilière installée depuis 20 ans à Rabastens.
Et après, Rabastens aussi, c'est qu'on est sur un axe Toulouse-Albi. Et donc là, moins des jeunes qui viennent pour les copains, mais plus des familles qui vont venir parce qu'il y a l'autoroute pas loin et puis que c'est accessible entre Albi et Toulouse.
Là, c'est plutôt des profils de cadres, vous diriez ?
Oui, là, oui. Oui. C'est des gens qui cherchent de la maison individuelle ou maison de ville, mais plutôt, voilà, un peu excentré, hein, du centre de Rabastens, mais ouais.
Est-ce que vous êtes confronté à aussi de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à se loger, à trouver ici du fait de l'augmentation des prix ?
Oui, bien sûr, on le voit tous les jours. Tous les jours, nous, quand on fait visiter, bien souvent, la réflexion qu'on a, c'est trop cher.
Et même quand on veut louer, c'est difficile.
Alors du coup, par contre, le marché de la location, lui, il explose. Parce que comme les gens ne peuvent pas se loger, devenir propriétaire, ils se réfugient sur la location. Et alors là, la location, oui, nous on a contact avec, on a une agence locative aussi à Saint-Sulpice, et c'est des listes d'attente, quoi.
D'une certaine manière, on a sur cet axe-là un processus d'élévation des niveaux sociaux.
Lionel Rouget.
Il reste encore quelques ménages retraités, plus populaires ou de petites classes moyennes. Mais en tout cas, sur les nouveaux arrivants, ce qu'on dénote, c'est bien une dynamique, en tout cas sur l'axe le plus accessible, ferroviaire ou autoroutier, une augmentation, oui, des revenus des ménages qui s'installent.
Et on nous a...
Sachant qu'on est on est aussi sur des territoires qui sont, avec de fortes aménités paysagères, substrat, c'est vallonné.
Joli.
C'est joli.
On nous a aussi décrit Rabastens comme le Montreuil de Toulouse.
Alors ça, après, ça appartient aux habitants, enfin, j'aurais tendance à dire. On est sur une commune qui, oui, était plutôt un gros bourg agricole, relativement diversifié, en tout cas, dans son peuplement, et qui s'est embourgeoisé, en fait. On le voit bien, enfin, moi, j'ai quelques collègues qui sont arrivés de la région parisienne, ils sont allés s'installer là-bas.
À Rabastens.
Voilà. Oui.
Donc on nous a beaucoup parlé de l'arrivée des intermittents du spectacle. Il y a beaucoup d'artistes, en fait, oui, aussi installés, donc qui participent aussi à leur manière à cette attractivité.
Oui, il y a des effets d'agrégation. Il y a des effets d'agrégation qui participent de cette augmentation, en tout cas, de groupes sociaux avec un capital culturel dans une accessibilité à la métropole qui est rapide sans en avoir les inconvénients et qui, jusqu'à présent, était parfois installée dans la banlieue toulousaine. Et qui, en fait, ne trouvent plus des espaces pour leur activité, leur dynamique de création dans la banlieue toulousaine, parce que ces grandes friches, elles sont petit à petit aussi réexploitées par la production immobilière et par le capital. Il y a effectivement là un effet de report vers des secteurs en périphérie du cœur métropolitain, en fait, vers certains territoires, dont, entre autres, effectivement, ce secteur-là.
Moi, ça fait 10 ans que je vis là. Et à la base, je cherchais un endroit où m'installer, pas loin de Toulouse.
Majid Berjou, libraire.
Où je pourrais développer un projet de restaurant culturel, pour le coup. Mais je voulais pas le faire à Toulouse. Parce qu'en plus de ça, il y avait une dimension écologique où on essayait de travailler avec des maraîchers en direct. Donc j'ai cherché autour de Toulouse un lieu pour m'installer et je suis tombé sur Rabastens.
Et avant, vous habitiez à Toulouse ?
Ouais, ça faisait 6 ans que je vivais à Toulouse.
Et encore avant?
Et avant, je suis de la région parisienne. Hein. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 25 ans à Paris, banlieue et 13e.
Et donc, vous avez ouvert ce restaurant?
Oui, il s'appelle Le Banc Sonore. C'est une coopérative qui existe encore aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, les gens ils se cèdent les parts. Et c'est devenu un QG, en fait, un peu militant à Rabastens. Il a été mal vu. Plusieurs fois, en fait, on a subi des intimidations, ou il y a un voisin qui est très véhément, qui veut pas que ce lieu existe. Et pour beaucoup de gens, c'est le bar des zadistes, quoi, en gros. Parce que, pour l'histoire, on n'est pas loin de Sivens. La forêt de Sivens, elle est à 20 bornes, 10 bornes. Et à un moment donné, ça, que le Banc Sonore accueillait des réunions d'organisation autour de la ZAD, de Sivens. Et du coup, ça crée un clivage avec des locaux, notamment des agriculteurs ou des gens qui étaient pour le barrage. Peut-être que le mot est exagéré, mais il y a eu des ministres d'agriculteurs qui sont allés faire des actions contre les zadistes. Ça a été documenté. Il y a eu même des papiers qui ont été écrits là-dessus, des photos, voilà. Ça venait de ces gens-là, quoi, qui se sont dit si c'est pour venir vivre ici et ne pas accepter le choix de familles qui sont installées depuis des milliers d'années, c'est pas possible.
Une précision s'impose sans doute. Nous nous trouvons dans un territoire encore très marqué, pour ne pas dire traumatisé, par les luttes auxquelles a donné lieu le projet de barrage dit de Sivens. Ce projet de retenue d'1,5 million de mètres cubes d'eau devait servir à irriguer des terres agricoles, mais aurait résulté en la destruction de près de 13 hectares de zones humides, ce qui a provoqué une forte contestation des milieux écologistes. La ZAD de Sivens se forme et réunit des activistes locaux et venus d'ailleurs, dont certains, c'est difficile à chiffrer, se sont depuis installés à proximité. Le 26 octobre 2014, au cours d'une manifestation, Rémi Fraisse, 21 ans et opposant au barrage, est tué par l'explosion d'une grenade offensive projetée par un gendarme. Le projet est dès lors suspendu. Les tensions demeurent toutefois entre les deux camps. Le camp écolo, souvent et sans doute abusivement associé aux néo-ruraux, et le camp pro, qui soutient les agriculteurs concernés. Précision faite, retour à Rabastens, où en 2021, Majid a ouvert une librairie, la Confiserie.
Ça a été 2 ans de travail acharné pour avoir des subventions, pour trouver le local. Alors là, pareil, en fait, ça a été un long combat. Et c'est là où on s'est dit... Parce que mon collègue, lui, il a grandi ici. Il est né ici, quoi. C'est vraiment un autochtone, pour le coup. Et quand on a cherché un local, on s'est rendu compte que c'était galère, quoi. Parce que tout le monde cherchait un local à ce moment-là, dans le coin, pour lancer des projets.
Et c'était cher aussi? C'était galère parce que c'était cher?
Ouais. Franchement, ça vaut presque un loyer de Toulouse, quoi. Et c'est là où on se dit que c'est pas possible. Qu'il y a des gens qui vont maintenant un peu plus loin, quoi. Qui disent, en fait, Rabastens, c'est déjà Toulouse. On est à 20 minutes en TER. Donc forcément, les prix, ils s'alignent. Vous prenez un petit village ou une petite ville qui n'est pas desservie par la ligne TER, les prix, ils perdent 30%. C'est vraiment ce facteur-là aussi qui fait que les prix sont chers, quoi. Dans un premier temps, je pense qu'il y a eu un noyau dur de quelques artistes et qui ont pu créer des colloques ou s'installer. Et en fait, au fur et à mesure, ça a fait boule de neige. Il y a d'autres potes de potes qui sont installés. Et les cadres, voyant en fait tout ce microcosme se mettre en place, artistes, ça leur a donné envie. Sans tomber dans un cliché un peu, manichéen, mais la vie d'artiste, bohème, etc., en fait, attire parfois des gens qui gravitent autour, notamment des cadres ou des gens qui ont des thunes, hein, et qui peuvent se permettre de s'installer aussi. Et du coup, au fur et à mesure, les deux se répondaient, et aujourd'hui, c'est 50-50, quoi, on va dire. Sans oublier les gens qui habitent là depuis toujours et qui sont restés.
Est-ce que vous vous posez la question de la gentrification? Est-ce que c'est un sujet qui est préoccupant ici?
Oui, on a fait pas mal d'événements à la librairie ou même, on se pose ces questions-là. Il y a eu des assemblées populaires pendant l'entre-deux-tours, là, qui étaient un peu compliquées, où c'était des questions qui se posaient aussi. Moi, je suis dès quand je vois qu'une boutique qui est là depuis toujours est remplacée par un truc un peu trop concept ou un peu trop... qui correspondait plus à des magasins qu'on retrouve en milieu urbain. Mais notamment la librairie, hein. Moi, je ne veux pas non plus m'extraire de cette réalité. Mais il y a eu des fripes, typiques. C'est... le développement à outrance de toutes les activités pseudo développement personnel, yoga, etc. Quand ça prend vraiment le dessus sur tout le reste, c'est qu'il y a un problème, quoi. Du coup, avec une pote derrière, on s'amusait à regarder les affiches des activités qui étaient proposées à Rabastens, et franchement, c'est presque une caricature, quoi. Il y en a trop, quoi. Et puis, il y en a dans tous les sens, quoi. Tantrique, machin avec des animaux, avec... Au bout d'un moment, tu t'es dit, ouais, à qui ça va parler, ce genre de choses, en fait. C'est surtout ça, en fait. Il y a quelques personnes qui vont permettre de mettre 400 balles dans ce genre d'activité à l'année, mais en fait, il y a d'autres personnes qui sont à des années-lumière de ça. Donc, il faut quand même prendre en compte ça. En même temps... Il y a des villages en France où les maires payent des appartements et donnent des locaux à des gens pour qu'ils redynamisent en fait leur village. Donc, elle est où la limite ? Donc ouais, c'est des questions qu'on se pose. Et surtout, on se pose la question de comment ne pas susciter pas une forme de violence ou de mépris, mais en tout cas d'incompréhension vis-à-vis des gens qui habitent ici et qui nous voient débarquer, quoi. Donc la question, c'est de dire comment tisser des liens pour pas être justement dans une forme de... Pas de colonialisme, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, on arrive et on est les maîtres à bord et on va vous remplacer, quoi.
On est chez nous.
On est chez nous, quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Enfin, on est partout chez nous et en même temps, il y a des gens ici qui essayent de perpétuer des traditions, des modes de vie. Et l'idée, c'est que ça reste, en fait. On n'est pas contre ça non plus.
Le plus important pour moi, c'est... Alors, d'abord, je vais parler d'habitat, parce que... L'habitat, aujourd'hui, il y a une demande de logement extrêmement importante et on est incapable d'y répondre. On y répond très très mal.
Olivier Damez, maire de Coufouleux, commune voisine de Rabastens, sur l'autre rive du Tarn.
Et les nouvelles lois qui sortent sur ce qu'on appelle la loi climat et résilience, sur l'urbanisme, vont complètement bloquer l'urbanisation, en tout cas pas la densification, mais l'urbanisation. C'est-à-dire qu'on n'a pratiquement plus de surface constructible. Donc ça veut dire que c'est très très difficile pour les gens de se loger. On a très peu de logements sociaux, pas assez, puisque historiquement, notre commune n'était pas du tout imposée. Et à côté de la commune de Rabastens, il devrait avoir normalement 25% de logements sociaux, il n'a que 4%. Donc c'est vraiment ridicule. On est sur une période de tension importante, en tout cas sur le territoire, très forte. C'est vrai que c'est des coûts qui étaient beaucoup moins chers qu'à Toulouse il y a une dizaine d'années. Et en tout cas, sur ces 10 ans, on t'a aperçu qu'il y a eu une explosion des prix énorme. Enfin, quand j'ai construit ma maison, j'ai acheté un terrain à 6 euros au mètre carré. Maintenant, écoute, c'est dans les 120 euros du mètre carré. Donc, c'est des prix qui ont explosé en 20 ans, mais qui ont vraiment explosé. C'est vrai que je dis souvent qu'il manque beaucoup, beaucoup de logements à louer, énormément. Alors, en pourcentage, j'aurais du mal à le dire, mais je crois que le marché locatif, en tout cas sur Coufouleux, il ne devrait pas y avoir plus de 20% en marché locatif. C'est très faible. Sur la commune d'à côté, Rabastens, c'est un peu plus parce qu'il y a le vieux Rabastens, des logements qui sont d'ailleurs très très mal retapés, mais qui se louent à des prix extrêmement chers, alors que la qualité des logements locatifs est pas vraiment à la hauteur.
Est-ce que vous voulez du café, messieurs ?
Moi, je veux bien, Sophie. Vous faites aussi de la musique, alors ?
Oui.
C'est super. Moi, je viens de débuter il y a 4 ans et je suis passionné de saxophone. Donc moi, j'en ai plusieurs. Des fois, il y a des gens qui viennent. Non, c'est sympa, c'est une bonne asso. Ça permet de voir des gens, de partager. Ah ben si, oui, tellement ils jouent bien qu'on l'avait oublié.
Vous voulez dire ce que c'est, cette association, où on est là ?
Cette association EVS, c'est une association que je connais depuis 3 ans, à Coufouleux, qui s'appelle La Rue Suspendue aussi. Bon, ils font beaucoup dans le social, c'est une association à but non lucratif auquel tous les gens qui viennent participent bénévolement. Gratuitement à toutes les animations sorties qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, on fait aussi bien de la musique comme j'ai fait, hein, bien sûr, du yoga, de la cuisine, des sorties avec eux. J'ai fait sorties à la plage, et c'est le but, je crois. Enfin, le but quand on est quand on n'a pas beaucoup de monde autour de nous, quoi. Donc le café, c'est 3 euros.
Non, c'est gratuit. Vous avez le café là-bas.
C'est comme une maison de quartier. C'est un espace social et solidaire.
Vous vous appelez Sophie, hein ? Vous êtes bénévole ici ?
Je suis bénévole, oui, ici.
Et est-ce que la question du logement, c'est une question qui revient un peu dans ce que les gens se disent ici, ou pour vous ?
Moi, ça fait depuis 2008 que je suis ici. Et j'étais dans un logement insalubre. Et ça fait 3 ans que je demande un logement social parce que j'ai pas accès à un autre logement financièrement, c'est pas possible. Avant, j'étais à Montauban. Et on avait déménagé parce que les loyers étaient trop chers. Et on avait 2 salaires. Et là, avec un seul salaire, c'est juste pas possible, quoi. Dans le privé, j'ai rien trouvé du tout. On m'a rien proposé. C'était hors de prix, quoi. Alors, des logements sociaux ici, il n'y en a pas beaucoup. Jusqu'à maintenant, Rabastens s'y payait les amendes. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon. Il y a très peu de logements sociaux ici. Dans ceux-là, sur Coufouleux, qui ont été construits, ils ont 3 ans, je crois.
Oui, c'est ça. Il y avait eu 34, je crois, logements qui avaient été construits il y a quelques années.
Ben, ça doit être ceux-là. Et il y a eu un autre quartier à Lille-sur-Tarn aussi.
Et donc, il y a pas mal de demandes.
Oui, énormément. Je crois qu'il y a 3 bailleurs ici et ils sont débordés, quoi. On était tous soit en insalubrité, soit on avait carrément des bâtiments qui s'effondraient. Parce que c'est une vieille ville et les propriétaires font pas les travaux. Moi, personnellement, j'ai eu fuite d'humidité, fissure dans les murs. J'avais très peur que mon logement s'effondre, en fait. Et les propriétaires, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils touchent leur loyer, c'est pas leur problème, quoi.
Et je me demandais, est-ce que vous avez déjà entendu ce mot « gentrification » ?
Non.
C'est quand on parle d'un endroit qui s'embourgeoise et que les personnes les plus précaires peuvent plus vivre. Est-ce qu'il vous semble que là, il y a ce genre de phénomène d'embourgeoisement ?
Alors, je dirais qu'un petit peu, mais en fait, il y a beaucoup de successions qui ne sont pas résolues. Donc, il y a énormément de logements qui pourraient être rénovés, remis en tant que logement fonctionnel, ou des terrains vendus. Mais les successions ne sont pas réglées, donc il y a énormément de logements qui sont inhabités et fermés. D'ailleurs, il y a un tiers-lieu à Rabastens qui a été rénové, qui était en train d'être décrépit, en fait. Mais là, ils auraient pu faire 20 logements, au moins.
Bon, les garçons, est-ce que vous pensez que ça s'est embourgeoisé au niveau des logements ?
Est-ce
que c'est embourgeoisé que ça s'est...
Je crois que Saint-Sulpice, quand moi j'ai acheté ma maison il n'y a pas longtemps, c'était 11% d'augmentation, Villemur 12%, Rabastens 7% sur les maisons sur le mètre carré, quoi. Ouais, ça s'est embourgeoisé.
Il y a une vie très très riche. Une vie très riche et qui s'est développée avec les nouveaux habitants. Ça, c'est vraiment très, très important. On a, de façon assez étonnante, d'abord Rabastens, puis maintenant Coufouleux à côté, donc les deux communes, on a un nouvel habitat et des nouveaux arrivants, dont beaucoup d'intermittents du spectacle. Beaucoup.
Peut-être qu'il y a plusieurs aussi vagues et types de nouveaux venus, en fait, avec des parcours et des profils sociaux un peu différents.
C'est quand même pas tous les intermittents du spectacle, je veux pas dire. Il y en a beaucoup, c'est vrai. C'est ce qui fait que c'est marquant. Mais je pense à toutes les familles qui ont acheté des maisons ici localement. Ce ne sont pas des intermittents du spectacle. C'est pas.
Ils sont quoi alors ?
Ben, c'est des gens qui travaillent pour Airbus, par exemple. Des gens qui. Il y a quand même pas mal de cadres qui ont. C'est-à-dire les maisons un peu importantes qui sont plutôt au centre-bourg. C'est plutôt des cadres qui travaillent sur Toulouse, oui, beaucoup. Des populations quand même bien différentes. Cette population plus intermittente du spectacle, plutôt plus. Politiquement, sûrement plus à gauche. Sûrement même plus extrême gauche aussi. C'est des sujets qui sont très sensibles ici. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne population qui a ses fêtes, la fête du village qui continue, et une nouvelle population qui a ses animations propres aussi. Moi, je me bagarre tout le temps en disant, je dis toujours aux nouveaux arrivants, mais participez aux fêtes locales, faites vivre, être là en même temps que les autres. Mais c'est un peu compliqué à faire vivre. De façon historique, il y a une fête du village ici au mois de septembre. C'est une fête du village qui a un côté traditionnel aussi, avec des choses. Il y a la messe, il y a une course cycliste. Mais c'est vraiment, vraiment un public qui est très marqué comme ancien de la population.
Un petit peu, comment dire, il y a des frontières.
Il y a des frontières, oui. Il y a des frontières, oui, c'est vrai. Oui. Des frontières qui rendent parfois les choses tendues. Alors, le risque pour moi, c'est... On est une commune où on a eu quand même, pour le Front National, presque, je crois, presque 30% des voix. Moi, je trouve ça dramatique, en tout cas. Et en même temps, c'est sûrement des gens avec qui moi je m'entends très bien, donc c'est pas un souci. Mais pour moi, une des choses très importantes, c'est de faire que les gens arrivent à apprendre à vivre ensemble avec des parcours de vie très, très différents. Mais on s'aperçoit que c'est pas simple à faire vivre.
Ici, c'est la brasserie Le Week-end à Coufouleux. Nous y rencontrons Daniel, le patron des lieux, et son amie d'enfance, Anne, infirmière libérale.
Ben nous, on a vu un village rural dans toute sa splendeur évoluer. Alors bon, il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup de vie. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Même la mentalité a changé aussi. C'était des gens du terroir. Là, maintenant, depuis les crises de l'immobilier, on a des gens, suite à ça, qui sont venus de la région toulousaine, donc qui sont venus habiter dans notre petit village. Donc, c'est vrai que nous, tout ça, ça nous a beaucoup surpris. Et cette évolution, en plus, amène un mode de vie différent, nouveau, puisque nous, les gens du terroir, on avait notre manière de vivre. Et c'est une nouvelle manière de vivre qui arrive de l'extérieur, qui plaît pas, mais en tout cas qui est ici.
Moi, je trouve que notre rabastinois a énormément changé. Alors moi, j'ai connu, comme je dis, les années néfastes. Alors, entre guillemets, ça peut ne pas plaire, mais Rabastin, c'était une ville bourgeoise, hein, c'est-à-dire avec le vin. C'était une ville viticole, hein, donc pas forcément riche, hein, mais voilà, avec les meubles. Le meuble, c'était vraiment très connu, le meuble à Rabastin. Et il y avait ce qu'on appelait autrefois les quinzaines commerciales, qui attiraient un monde pas possible, avec après des grandes tombolas à la fin. Bon, donc c'était vraiment une ville super vivante. Donc ça devait être dans les années 75...
70-80,
quoi, vraiment. Ouais. Une super dynamique, avec et vraiment le bien vivre ensemble, tout le monde connaissait tout le monde. C'était super convivial, chacun s'adaptait, vous voyez, les voisins allaient, vraiment, voilà, une façon de...
Pas de conflit.
Absolument pas, vraiment pas, vraiment, on était vraiment dans l'entraide, alors parce que, apparemment, maintenant, c'est nouveau, ça, de dire, on y était déjà, autrefois, dans l'entraide, dans ces petits villages, c'était le partage, tout ça, on y était. Après, effectivement, comme dit Daniel, on a vu notre changer, alors moi, je dirais qu'il y a eu deux facteurs, c'est-à-dire Sivens, qui a amené certaines personnes qui se sont plus ici et qui sont restées. Et ensuite, le Covid, effectivement. Des gens qui se sont dit, on va partir de Toulouse, c'est super. La campagne, Rabastin, c'est joli, c'est super. Et qui se sont installés, mais qui ont oublié que la campagne, eh bien, comme je dis, les cloches, elles sonnent, le coq, il chante, les vaches. L'odeur est parfois pas très... voilà. Et c'est vrai qu'il y a plus de conflits, moi je trouve. Alors bien qu'on dise qu'on soit dans le partage et tout ce que vous voulez, il y a beaucoup plus de conflits que ce qu'il y avait par le passé.
Les gens qui s'installent, de votre point de vue, ils se plaignent des cloches du coq et des vaches?
Alors certains, oui. Les cloches de Saint-Victor, par exemple, sonnent une fois par jour parce que ça gênait les voisins. Alors que, voilà, comme
mais
je dis...
C'est à Rabastin.
À Rabastin,
il y a eu des plaintes.
Ben, par exemple, la sirène des pompiers qui empêchait les gens, alors que c'était beaucoup plus facile. Bon, même si elles sonnent là, ça sonne pas déjà toutes les... Ça sonnait jamais la nuit, hein, ça sonnait le jour, mais ça dérangeait les gens. Tout est contraignant et tout, alors la sirène ne sonne plus.
Le terroir du Rabastinois, pour moi, dans le Tarn, a été un des terroirs les plus... je recherchais, et on parle de Toulouse, mais je dirais bien la région parisienne... d'Angleterre et d'autres, mais ils ont des moyens.
Ah non.
Nous Les gens d'ici, ah ben aujourd'hui, ils vont avoir des problèmes de se loger, forcément, puisque si on reste sur des... regardez là, ça, on en entend parler, que l'immobilier, c'est très dur. Les taux sont remontés jusqu'à 4,50. Là, ils ont un peu rebaissé. Donc, aujourd'hui, les gens d'ici n'ont plus les moyens d'acheter. Ça, c'est clair. Ils n'ont plus les moyens d'acheter, de se faire le petit carré d'herbe, avec la petite maison comme à l'époque, parce que la moindre villa, le moindre terrain ne sont pas dans leurs moyens. Donc, effectivement, l'immobilier marche toujours sur une certaine clientèle. Clientèle toulousaine qui a des revenus plutôt plus conséquents, parisienne parce qu'ils ont vendu des biens à des prix conséquents, ou toulousain ou autre. Donc ici, on est clair que les gens qui habitent ici, ils sont lésés. Mais moi, j'ai vraiment une cliente très différente. On aime les gens. Hein. Notre fonds de commerce, il est là, hein, avant tout. Après,
il y a quand même des endroits où qui sont très spécifiques, où certaines personnes vont et d'autres personnes ne vont pas. C'est pas une question d'ancien, nouveau et trucs comme ça. C'est pas du tout ça. Alors pas sur Coufouleux, effectivement, parce qu'ici c'est plus le week-end. Ça existe depuis, comme je dis,
l'institution.
Ouais, c'est une institution. Enfin, moi, on a grandi ici. On faisait des soirées en bas. Enfin, je veux dire, le week-end, c'est vraiment une institution dont tout le monde vient. Mais après, style Arabastens, c'est beaucoup plus. Il y a plus de clivage. C'est... Ouais, il y a plus de clivage, je dirais. Il y a des endroits ou d'autres endroits où. Voilà, où on se... il n'y a pas cette mixité-là, non, pas du tout.
Cette mixité, elle prend pas. Est-ce que pour vous, c'est qu'il y a des endroits, par exemple, où c'est pas accessible économiquement, par exemple ? Ce serait un endroit, bah voilà, ça c'est trop cher, donc je peux pas y aller ? Ou à quels endroits ça se joue, ces clivages ?
Ah non, pas du tout au niveau économique, pas du tout ça. Bah, à Bastens, il n'y a rien de toute façon qui... Hein, on n'a pas de super, ni resto gastro, ni de... On n'a rien dans le... de gamme, nous. Hein. Donc non, au niveau économique, pas du tout. Non, je pense au niveau du savoir-être, savoir-faire. Il y a des lieux qui sont, moi je dis, où les personnes se regroupent et où d'autres personnes, on s'y sentirait peut-être moins bien. Voilà. On est trop devenu, entre guillemets, trop associatif. C'est pas tout le monde qui va au Banc Sonore ou au Bar des Sports, au Populaire. Ça va être une certaine population. C'est nouveaux arrivants qui sont arrivés. Les anciens, vous ne les trouverez pas dans des endroits comme ça. Voilà.
Par rapport à l'associatif, c'est ça. L'association sportive, les associations pour faire les fêtes, tout ça, oui, bien sûr, ils font des bars, ils font manger les gens. Mais je veux dire, ça s'est passé, ça, à une époque. Pourquoi les fêtes...
Les fêtes du 15 août.
Font à manger...
Avec le Corso Fleury, la cavalcade, les gens, ils venaient de Toulouse, d'Albi, de partout.
On avait
les fêtes du 15 août. C'était excellent, vous regarderez. Il n'y a plus.
C'est fini, plus personne ne veut le faire, ça. Ça, c'était du vrai bénévolat, du vrai associatif.
À Rabastens, à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de politique. Voilà, et ça me dérange. Je vais vous donner un exemple. Au marché à Rabastens, il y a quelques mois, des jeunes, RN, peu importe, en train de distribuer des tracts, et une certaine population, LFI, qui leur crache dessus. Ben ça, moi, je ne peux pas l'accepter. On respecte la vie de l'autre. Moi, ça, autrefois, ça n'existait pas, ça. Vous pouviez avoir, moi, à l'époque, on avait Jeannot Ramondou, le Bar des Sports, RN, Front National, mais c'était une légende, Jeannot Ramondou à Rabastens. Tout le monde allait, et ses meilleurs amis, comme je dis, ça me fait rire, c'était surtout théâtral. Ses meilleurs amis, c'était Moussa, qui m'en parle encore, enfin, tous les Algériens ou les Maghrébins du coin allaient chez lui, c'était trop marrant, quoi, parce qu'il était super tolérant, mais il avait ses idées politiques, peu importe. Mais ça, à l'heure actuelle, ah, Rabastens, on a du mal, hein. Ah, là, vous n'avez pas intérêt de dire que vous êtes reine, hein. Mais ça, c'est pas normal.
Qu'est-ce que vous pensez de l'agression qu'il y a eu en 2022 à la librairie La Confiserie, où il y a eu énormément de remarques racistes, et puis les deux libraires roués de coups?
Alors, déjà, il faut revenir, je pense que vous n'avez peut-être pas toutes les informations, hein, ça n'a pas été que dans un sens, d'accord? Et je pense que c'était loin. C'est facile à l'heure actuelle de dire qu'on est raciste. À Rabastens, il n'y a jamais eu de racisme. Hein, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Autrefois, par exemple, les maires, tout ça, il n'y avait pas de politique. Après, c'est vrai, vous avez bien compris, je suis nostalgique du temps d'avant, effectivement.
Sur les lieux où nous a mené ce travail sur la gentrification, j'ai tenté d'être attentive à la nostalgie, aux affects tristes, à ce qui relevait de la tristesse face à la disparition de monde, des lieux et des modes de vie, paysans ou ouvriers, sous l'effet d'une appropriation par des catégories qui dominent dans la société, les classes supérieures ou des urbains mieux dotés économiquement, et ce qui relevait, à l'inverse, de la pure nostalgie, du « c'était mieux avant ». En réalité, peu de « gentrifiés » entre guillemets que j'ai rencontrés se sont révélés être d'irréductibles réfractaires au changement, au contraire même. Il était en revanche toujours central de se questionner sur à qui profite ce changement. Est-ce que ce changement lèse les plus fragiles socialement ? Dans ma vie, et dans le Tarn, pour ceux qui nous intéressent ici, j'ai appris à me méfier de la nostalgie, de la tentation sous son emprise de réécrire le passé comme exempte de conflits harmonieux, égalitaires, ce qui est faux et largement documenté comme tel. La bourgeoisie locale tarnaise a bénéficié des processus que nous décrivons ici. Les catégories anciens et néo, si elles sont mobilisées par les personnes elles-mêmes, et parfois pertinentes, de fait, des modes de vie urbains sont importés, des entre-soi se forment et excluent parfois, et des traditions s'étiolent, elles occultent toutefois d'autres réalités sociales, d'autres rapports de force, des inégalités qui perdurent, voire s'accentuent, et ce, tant parmi les anciens que parmi les néos. Il y a sans doute du commun dans ces tristesses, toutes sincères, que j'ai rencontrées. Du commun à trouver, assurément. Mais ce n'est pas la même chose de déplorer que les classes populaires soient dépossédées d'espaces de vie du fait de l'arrivée d'une nouvelle bourgeoisie, et de déplorer un temps où les minorités de genre ou raciales, pour le dire clairement, les homosexuels et les personnes perçues comme noires ou arabes, devaient être dociles et invisibles. La question que pose la gentrification n'est pas qui est légitime à habiter, mais qui peut habiter. C'est une nuance, à mon sens, fondamentale.
Et oui, il y a des tensions, oui. Je pense que les gens qui sont précaires ici et qui vont débarquer, des gens qui ont les moyens de vivre mieux et qui forcément, du coup, vont faire augmenter les prix, eux, ils ont la rage, ils ont le seum. Parce que justement, problème économique.
Majid Berjou.
Puis après, il y a d'autres personnes qui, eux, à mon avis, sont plus dans des logiques identitaires et dans une peur du grand remplacement. Notamment sur des questions d'émancipation, type LGBTQIA+, type personnes racisées qui y arrivent. Et là, ça leur fait peur. Donc du coup, c'est quand même deux catégories de personnes qui sont très différentes. Pour la première catégorie, ça va. On arrive à faire des actions qui leur prouvent que, on est tous dans le même bateau et qu'on essaye de se tirer vers le haut tous ensemble. Et c'est pour ça, en fait, qu'on intègre des assos comme le Secours Populaire ou qu'on essaie de faire des actions militantes qui dénoncent, en fait, l'inflation, qui dénoncent la vie chère. La phase des gilets jaunes, pareil, c'était hyper intéressant. Et après, il y a l'autre catégorie, et là, c'est plus compliqué. Et là, c'est de la vraie violence, quoi. C'est des gens, ils veulent vraiment pas qu'on soit là, quoi. Et ça s'est exacerbé ces dernières années. C'est juste un écho à la réalité sociale du pays. Les gens, ils se lâchent.
Mais en 2022, vous avez été agressé, justement.
Nous, on a subi une agression qui a été déterminée par la juge suite au procès comme une agression raciste. Donc ça a été, acté. Mais ça a été un an de combat. On est deux personnes racisées qui tenons une librairie en milieu rural. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont positionnés du côté des agresseurs en disant vous n'aviez pas à ouvrir le soir, tout ça s'est inventé, vous étiez face à face, c'était juste une rixe comme une autre, alors que nous on avait des vidéos, qu'on a prouvé en fait le caractère raciste de l'agression.
C'est des personnes qui ont débarqué, c'est ça, un soir?
C'est des jeunes qui traînaient dans le coin, qui sortaient de fête, je ne sais plus ce qu'il y avait comme événement, il y avait un rallye je crois, et qui ont vu la librairie ouverte parce qu'on faisait un vernissage. Et au final, qui sont incrustés. Au début, c'était bon enfant. Et au dernier moment, ça a switché. Et ça a été hyper violent. Et là, il y a eu des propos racistes, homophobes, enfin voilà, tout ça, quoi.
Il y a eu des coups aussi.
Ouais, il y a eu des coups. Il y a eu des jours d'arrêt de travail. Il y a eu un procès, surtout. Et nous, on est fiers d'être allés jusqu'au bout du procès. Pour dire, au bout d'un moment, le seul moyen de savoir ce qui s'est passé, c'est d'aller devant un juge, quoi. À quel moment on devient autochtone, en fait? Moi, c'est ça la question que je pose. C'est, à quel moment on a décidé que, eux, c'est des autochtones, et eux, en fait, ça fait que 20 ans qu'ils habitent ici, ou ça fait que 30 ans, ou ça fait que 50 ans, ça fait que 3 générations. En fait, c'est la question de l'autochtonie, en fait. À quel moment on peut dire, lui, il est d'ici. là pour le coup c'est une histoire personnelle, mais moi ça me fait un reflet ou en tout cas un écho à ce que j'ai toujours vécu en tant que personne issue de famille migrante, en fait, de l'immigration. À quel moment on pourra dire en fait je suis français alors que je suis né ici, hein. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui nous demandent de nous intégrer alors qu'on est de la troisième génération à vivre en France, quoi. On a débarqué ici, on s'implique, on fait vivre le lieu, et encore il y a des gens qui disent bah non, en fait vous êtes pas d'ici, vous n'avez pas un nom purement tarné, vous parlez pas occitan, vous serez jamais d'ici.
Je vais revenir un peu sur l'habitat, parce qu'on a des expériences d'habitat qui sont assez nouvelles ici. On a deux projets d'habitat participatif sur lesquels moi j'étais très favorable. Et aujourd'hui, je dis attention, attention, parce qu'il y a un risque de faire de l'entre-soi.
Olivier Damez.
Alors, habitat participatif, je vais donner deux exemples. Le premier exemple qu'on a, c'est juste ici en centre-bourg. C'est 11 familles qui ont acheté un terrain. Une autre opération, pareille, mais qui s'est faite un peu à l'initiative de la commune, celle-là. C'est des personnes qui avaient un grand terrain de 2 hectares, en plein centre de la commune. Ce terrain a été vendu à une coopérative du Pays Basque, qui s'appelle le COL.
Comité ouvrier du logement.
C'est ça. Et qui sont des gens extrêmement intéressants et qui ont en plus une pratique sur l'habitat qui vise à ce qui n'est pas de plus-value. Et ça correspond exactement à ce que je cherchais. C'est-à-dire, il y a une trentaine de logements qui sont construits par le col et qui sont revendus ensuite, sauf que les gens qui achètent ne pourront pas faire de plus-value ou très peu de plus-value s'ils veulent revendre leur maison. Ils sont propriétaires de leur maison, mais pas propriétaires du sol. En plus, l'intérêt aussi, c'est que c'est des coûts pas chers. C'est des logements sociaux, considérés comme des logements sociaux. Et c'est des coûts, ils avaient une TVA à 5,5 au lieu d'avoir une TVA à 20%, donc ça veut dire que c'est des coûts de construction qui sont bien moindres. C'est ce qu'on appelle le bail réel solidaire, c'est une opération un peu particulière, bail réel solidaire. Ça correspondait très très exactement à ce qu'on cherchait, comment faire un habitat qui ne soit pas réservé à ceux qui ont de l'argent, et qui puisse être vraiment, correspondre à éviter ces augmentations de prix des maisons. Toi, ici, c'est impossible.
Donc ce projet, on peut le nommer, il s'appelle Au Jardin La Bastide. Ouais. Sur la question des logements sociaux, quand vous parliez tout à l'heure donc de 4%, donc 4% c'est pour le Rabastinois ?
Rabastins. Alors
pour Rabastins, d'accord.
Nous, directement, Coufouleu, on n'a pas d'obligation, parce qu'on est moins de 3500 habitants. Rabastins, ça a des obligations, ils sont plus de 3500 habitants. Certaines communes ont des obligations, d'autres n'en ont pas, ce qui est complètement aberrant. Alors que je suis persuadé qu'il faudrait multiplier les logements sociaux. Nous, on n'a pas d'obligation, mais on a une politique de démultiplication de logements sociaux. C'est-à-dire, toutes les opérations immobilières qui se font, on demande qu'il y ait du logement social.
Alors, le mot gentrification ne vous parle pas beaucoup, Olivier Damez, mais vous semblez quand même, en tant qu'élu, vouloir lutter contre la gentrification. Parce que, par exemple, avoir une politique volontariste en matière de logements sociaux, c'est une manière de lutter contre donc ce mot qui vient de l'anglais, ce concept qui vient aussi des sciences sociales, mais qui, en français, que l'on peut traduire par « embourgeoisement ». Donc manifestement, vous essayez de mettre en place des outils pour que des personnes avec des revenus modestes puissent encore se loger ici.
Puissent encore, oui, oui. Je pense quand même que pour arriver à loger du monde, on va devoir trouver des nouveaux systèmes complètement différents. C'est-à-dire que malheureusement, vu les coûts du terrain, les coûts du logement, il va falloir sortir un peu de l'idée que chacun a sa petite maison avec son petit jardin autour. En tout cas, il faut imaginer des choses complètement nouvelles. D'ailleurs, on insiste, nous, dans la préparation du plan local d'urbanisme intercommunal, à faire réfléchir les communes et à des modes d'habitat, avec des modes d'habitat en bande, et qu'on sorte de ces constructions de maisons avec chacun son petit jardin autour, son petit pré carré. Donc c'est important, et en plus, financièrement, ce sera la seule solution de s'en sortir.
Le mode d'habitat en bande?
Alors, mode d'habitat en bande, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des maisons avec leurs petits jardins, leurs petits murets autour, mais c'est des maisons qui sont accolées les unes aux autres, avec un jardin qui est plutôt derrière. C'est vraiment un bouleversement. Ici, on a un lotissement qui est fait comme ça. Et ça se passe très bien. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a essayé de vendre aux gens. Tous les investisseurs ont vendu. Vous avez votre terrain de 700 ou 800 mètres carrés. On vous fait une petite maison dessus, un petit jardin autour. Vous êtes chez vous. Il n'y a personne qui vous embête autour. Il ne faut plus vivre comme ça, en tout cas. Pour moi, c'est essentiel que les habitants qui habitent côte à côte se voient, se rencontrent, se parlent. Et il faut leur donner des occasions de se parler. Et en tout cas, dans ces maisons en bande, les gens se parlent plus, on est beaucoup moins complètement chez soi, enfermé chez soi.
Est-ce que vous avez déjà eu vent de personnes qui ont dû quitter Coufouleux à cause des prix du...
Oui, il y a pas mal de gens qui me disent on est obligé, ils sont en location, obligés de partir. Qui sont allés pas loin d'ailleurs là, ils sont allés à l'Isle-sur-Tarn par exemple, c'était un peu moins cher qu'une commune qui est à 15 km d'ici, quoi, voilà. De façon, moi, qui me rassure, c'est que les gens sont attachés à... Mais les coûts sont tels qu'on est obligé de partir.
Sur la gentrification, quand vous avez organisé des événements là-dessus, est-ce que vous avez identifié des outils pour lutter contre ?
Oui, déjà dans la posture, ça joue déjà pour moi à ce niveau-là, c'est de dire... Intéresse-toi aussi à ce qui se passe dans le coin, essaie d'y aller.
Donc les fêtes de, je sais pas, fêtes du village.
Chaque année, il y a la un festival occitan. Le festival occitan, c'est un très bon exemple. La croix occitane, en fait, c'est récupéré par des blocs identitaires comme étendard, en fait, d'une identité, d'un chauvinisme. Et en même temps, moi, je trouve la culture occitane hyper intéressante. Même les Qatars et tout, toute l'histoire des Qatars, enfin, c'est passionnant. Parce que c'est des rebelles, parce que... Voilà, donc du coup, on va au Festival Occitan, et ça se passe super bien, et les gens qui nous accueillent super bien, enfin, voilà. Du coup, un des moyens, c'est de s'intéresser déjà à ce qui se passe localement. Un deuxième moyen, c'est de faire des événements, mais qui soient accessibles à tous, sans tomber en fait dans une forme de justement d'embourgeoisement, pas être avec des termes trop pompeux, et aussi par rapport au prix, faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde au niveau du prix. Et après, ici il y a tout un tissu associatif qui accueille des migrants. Pour moi, c'est aussi un moyen de dire on n'est pas entre bourgeois qui essayons juste de penser à leurs pommes et qui essayons de vivre. Préserver du reste des réalités du monde, en fait. Non, si on vit ici, c'est pour s'impliquer et c'est pour aussi permettre à des gens de vivre comme nous, en fait, ce cadre. Pour la blague, à un moment donné, on se disait avec des amis qu'on ouvrirait bien un squat. Mais en fait, un squat pour faire une maison du peuple. À un moment donné, on avait pensé à ça, faire un lieu collectif qui permette à des gens qui sont en galère d'habiter, de vivre, et en même temps, un lieu ressource pour s'auto-organiser, quoi. Et en milieu rural, ça existait, des maisons du peuple. C'est juste que ça s'est perdu. Et les maisons du peuple, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait à des gens de se rencontrer. Donc l'idée, ce serait de faire en sorte que ces lieux-là, un lieu comme ça, permettent aux habitants historiques et aux néos de se rencontrer et de faire des choses ensemble, quoi.
Ça s'est pas fait.
Et ça s'est pas fait. Ben non, ça se serait sinon.
C'était Tarn, l'exode urbain sous tension. Merci à Lionel Rouget, Monique, Rosie, Denise et leurs camarades de l'Amicale des aînés de Saint-Sulpice, Didier et ses comparses du Café des Sports à Rabastens, à l'agent immobilier dont je ne connais malheureusement pas le nom, à Majid Berjou, Olivier Damez, Sophie et les personnes croisées à l'association La Rue Suspendue, ainsi qu'à Daniel et Anne. Merci aussi à Greta Tomasi, Marie-Lys, aux gens qui nous ont accueillis sur les lieux collectifs, et à Alex qui se reconnaîtra. Prise de son, Eric Audra. Mixage, Claire Levasseur. Documentation Radio France, Eva Canéparo. Attaché de production, Anaïs Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. Gentrification, quand les espaces populaires sont bourgeoises. Une série documentaire de Clément Salzard, réalisée par Gilles Blanchard.